Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est avec plaisir qu'on est revenu aujourd'hui parmi vous. Ça me fait toujours plaisir. Et vous avez le bonjour de Bruno Van Olemersch, qui est pasteur à Marc-en-Barœul, où nous allons souvent. Bon, alors donc, il nous a dit de vous dire bonjour de sa part. Voilà. Alors, j'espère que vous avez le temps. Si vous sentez que c'est trop long, vous levez la main ou je ne sais pas quoi, puis vous dites « Arrête, arrête, c'est bon. » Alors, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous apporter une étude de base. Peut-être que ce que je vais vous raconter, vous le connaissez. Et puis, ensuite, on partira sur d'autres choses. Vous voyez, j'ai oublié ton prénom, Jean-Luc. Il nous a apporté la Sainte Seine, là, en parlant du sang. C'est important le sang, mais c'est vraiment, c'est très mystérieux le sang. Et dans la Bible, il y a des sujets comme ça qui sont des sujets importants qu'il faut essayer de comprendre. Par exemple, il y a le sujet de la mort, il y a le sujet du péché. Je vous assure que c'est pas si simple que ça, le sujet du péché, comprendre ce que c'est. Il y a le sujet de la justice de Dieu, Dieu parfaitement juste avec tout le monde. Pas si facile à comprendre. Et puis, il y a le sujet du sang, il y a le sujet de l'homme fait à l'image de Dieu. Alors, l'enseignement de la parole, la parole est esprit et vie. Et c'est nécessaire d'être enseigné. Alors, je suis comme ce matin, comme Paul, tout tremblant, parce que je me dis, est-ce que Seigneur, tu vas bien vouloir parler par ma bouche ? Eh bien, que le Seigneur le fasse. Hein. Et voilà comment nous sommes faits. J'aimerais vous emmener promener dans l'humanité. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et puis, dans le premier épître aux Thessaloniciens, il est écrit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus. » Et on découvre alors que nous sommes faits de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Alors, quand Dieu a créé Adam, il a procédé de la façon suivante. C'est dans le livre de la Genèse. Dieu forma l'homme de la poussière. Il fait de la poterie. Il prend de l'eau, de la terre, il fait une sculpture. Il fait son corps. Il souffle dans ses narines le souffle de vie, c'est-à-dire qu'il lui met un esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un esprit. Et l'homme devint une âme vivante. Donc vous voyez, l'âme, c'est ce qui se trouve à la jointure entre le corps et l'esprit. Et on va commencer, si vous voulez, à revoir, parce que je pense que vous connaissez, à quoi ça sert tout ça. Alors, l'esprit de l'homme, tout homme, qu'il soit chrétien ou non, croyant ou non, tout homme a reçu un esprit. Et le rôle de cet esprit, c'est de prendre conscience du monde spirituel. Parce que vous savez bien qu'il y a un monde spirituel. L'esprit parle aux esprits. Il est en relation avec les esprits. Et en particulier, il peut être en relation avec l'Esprit de Dieu. Mais il peut aussi être en relation avec d'autres esprits. Ça, c'est même assez courant, j'allais dire. Et alors, cet esprit, c'est la chose suivante. D'abord, je vous donne un verset qui vous dit que c'est bien Dieu qui l'a mis. Dans Zacharie 12:1, on peut lire « Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux, fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. » Donc cet esprit, il a été mis en nous, comme ça, voilà. Et d'ailleurs, Paul dira plus tard, dans la première épître aux Corinthiens, il dira, si je prie en langue, comme tu l'as fait, Christophe, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Alors, le rôle de l'esprit humain, il est triple. Il y a d'abord la conscience. Hein, conscience du bien et du mal. Vous savez bien que cette conscience, elle peut être étouffée. Mais cette conscience, elle est plus ou moins éveillée et elle existe dans chacun d'entre nous. Par exemple, vous voyez l'apôtre Paul qui va dans une église où un homme a pris la femme d'un autre, etc. Et il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. C'est par l'esprit qu'il sent. Et le même Paul, quand il va à Athènes et qu'il voit cette ville remplie d'idoles, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. C'est pas son âme. C'est pas son âme, c'est son esprit à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il y a aussi l'intuition. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire de ma grande-tante. Parce que quand j'explique ça, j'ai besoin d'avoir des choses concrètes. J'avais une grande-tante qui, pendant la guerre 14, son mari était au front. Elle était dans son lit, c'était la nuit. Et puis tout d'un coup, elle se réveille et elle dit « Il est arrivé quelque chose à Jean. » Et quelques mois après, Jean est rentré et il a dit « Cette nuit-là, j'ai été gazé. » Comment est-ce qu'elle l'a su? Pas par l'intelligence, c'est l'esprit, l'intuition. L'intuition, c'est du domaine de l'esprit. C'est ce qu'on appelle couramment le sixième sens, si vous préférez. Alors les femmes, elles sont très intuitives. Hein. Et c'est vrai qu'elles sont plus sensibles que les hommes à l'esprit. Souvent. Souvent. Regardez un petit peu Jésus. Dans Marc 2,8, qu'est-ce qu'on lit ? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi ?» Avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Comment il savait? C'était par l'esprit, pas par son intelligence. C'était pas parce qu'il voyait, il sentait. C'est une intuition. Ou quand Paul, il dit dans le livre des Actes, Paul, et maintenant voici, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant ce qui va m'arriver. Il sent qu'il doit y aller, voilà. C'est son esprit. Et puis l'esprit, il peut aussi être en communion avec d'autres esprits. Vous pouvez être en communion avec des démons, mais vous pouvez aussi être en communion avec Dieu. Et d'ailleurs, Jésus a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pas avec l'âme, mais c'est l'esprit. Pas pareil. Et je fais exprès de découper les choses en morceaux. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et puis cet esprit que nous avons en nous, quand il est en communion avec l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit, avec un grand E, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et là, on rentre dans le domaine de la foi. Ça ne s'explique pas. Je sais que je suis enfant de Dieu, mais je ne sais pas l'expliquer. Je le sais, je le sens. C'est par l'Esprit. Ne me demandez pas d'expliquer ça. C'est la foi est du domaine de l'esprit. Et la très sainte foi vient de la sainte parole. si on se nourrit de la sainte parole, la foi grandit. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc vous voyez qu'on peut se nourrir de la parole et faire grandir notre esprit. Et alors, l'esprit, il ne peut être éclairé que par le monde des esprits. Et merci Seigneur, parce que la parole est esprit et vie. Il existe des tas de bouquins sur terre, mais il n'y en a qu'un qui est esprit et vie. Et vous voyez, cet esprit que Dieu a mis en nous, s'il le retire, on meurt tout de suite. Ce n'est pas moi qui le dis, le livre de Job dit, s'il ne pensait qu'à lui-même, et s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain. Ou encore, dans le livre de l'Ecclésiaste, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vous voyez, on est fait comme ça. Alors ça, c'est une première chose. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'il nous est dit qu'on est un esprit, une âme et un corps. Le corps, je ne vous en parlerai pas, vous savez ce que c'est. On a assez de misère comme ça avec. Donc le corps, c'est le corps. Bon, mais l'âme. L'âme, qu'est-ce qu'elle est? Elle permet à l'homme de prendre conscience de lui-même et des autres âmes. C'est la personnalité, c'est le siège de la pensée, c'est le siège de l'idéal, quand on en a un. C'est le siège de l'amour, c'est le siège de la volonté, de l'intelligence. Et son rôle va s'exprimer à travers plusieurs choses. Par exemple, la volonté, c'est un instrument de décision, la volonté. Je décide, c'est mon âme qui décide, c'est pas mon esprit. Par exemple, dans la version de Darby du nombre 30, verset 3, il est dit « Quand un homme aura fait un vœu à l'Éternel, ou quand il aura fait un serment pour lier son âme par une obligation, c'est pas son esprit qui lie, c'est son âme. » Il ne violera pas sa parole. L'intelligence, qu'est-ce qui nous est dit dans le livre des Proverbes, Proverbe 2:20 ? La sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La connaissance, l'âme, retenez bien ça. Et quant au cœur, quand on parle du cœur dans la Bible, c'est à la jointure entre l'âme et l'esprit. C'est le passage entre les deux. C'est vraiment ce qui est au cœur. Ou alors dans Proverbe 3, versets 21 et 22, « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. » La vie de ton âme, l'enseignement, l'intelligence, tout ce que tu apprends, la connaissance. Et puis il y a aussi toutes les émotions, l'amour, la haine, toutes ces choses-là, c'est dans l'âme que ça se situe. Par exemple, on voit Marie qui reçoit l'ange Gabriel et puis elle dit « Mon âme exalte, mon âme ». Exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu. Vous voyez, elle sépare les deux. Ou encore, dans le livre de Samuel, premier livre, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Vous voyez, l'amour. Et là, c'était l'amour... L'amitié entre deux hommes. Dans le psaume 84, on lit « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair pousse des cris vers le Dieu vivant. Ou encore dans Ésaïe, « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. » Vous voyez, ce n'est pas l'âme qui cherche. L'âme désire et l'esprit cherche, parce que c'est l'esprit qui va rencontrer l'esprit. Vous voyez comment on est construit. Et quand Jésus était à Gethsémané, qu'est-ce qu'il dit ? « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous voyez, l'âme humaine, c'est quelque chose de fragile. Elle peut être attaquée de l'extérieur. Elle peut être abîmée. Tout à l'heure, je vais vous parler d'une âme qui a été abîmée. Mais elle peut être aussi éclairée par une lumière humaine. Tandis que l'esprit est éclairé par l'esprit ou par les esprits. Et puis, alors je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'est important. Ce mot que le Seigneur t'a donné. Dans Lévitique 17, qu'est-ce qu'on lit ? L'âme de la chair est dans le sang. L'âme est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Vous remarquez qu'il ne s'agit pas d'expier l'esprit. Ni le corps, mais il s'agit d'expier les âmes. Pas pareil. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Et vous voyez que le sang est attaché à l'âme, ou l'âme est attachée au sang. Prenez dans le sens que vous voulez. Alors si vous voulez, maintenant je vais vous emmener dans le jardin de Gethsémané, dans le jardin d'Éden, pardon, dans le jardin d'Éden. Alors on voit d'abord Dieu qui parle à Adam et il lui dit « Tiens, voilà le jardin ». Et dans le jardin, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a trois sortes d'arbres. Il y a l'arbre de vie, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, il y a des arbres fruitiers. Et il dit à Adam, « Occupe-toi du jardin. » Et on voit Adam qui va donner des noms aux animaux, etc. Et Dieu lui dit, « Tu peux manger de tout, mais pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors, il appelle tous les animaux et il donne des noms aux animaux. Et vous savez, quand on donne un nom, si vous avez un enfant qui vient au monde, vous lui donnez un nom, vous prenez autorité sur lui. Donner un nom, c'est prendre l'autorité. C'est Dieu qui a appelé Adam, Adam. Il a pris autorité sur Adam. Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu ? Il a endormi Adam. Il a ouvert sa côte et il a fait sortir Ève. Mais elle ne s'appelait pas Ève. Il a fait sortir une femme. Parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et cette femme, elle n'avait pas entendu la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu l'avait été donnée à Adam. Elle avait simplement entendu parler de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que cette femme, elle va céder à la tentation. Vous voyez, la parole de Dieu, il faut la manger. Comme Dieu disait à Ézéchiel, prends le rouleau et mange-le. Si tu as simplement entendu parler de la parole de Dieu, tu ne tiendras pas. Et quand ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est écrit, Adam appela sa femme Ève, et il prit autorité sur elle. Et vous voyez que la soumission de la femme qu'on voit actuellement dans, un peu partout, cette fameuse soumission, elle est de l'ordre du péché. Dieu ne le voulait pas ainsi. Et quand Dieu retourne tout, quand on revient après dans l'Église, quand il remet tout en place, il remettra ça aussi en place. Et ça, c'est à comprendre. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler ce matin. Ce que je voulais vous dire, c'est que Dieu n'est pas tentateur. Et on a toujours entendu dire Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour voir si l'homme allait résister à la tentation, etc. Dieu n'est pas tentateur. Et alors, ce que je vais vous dire, vous l'entendrez peut-être nulle part ailleurs, c'est possible, c'est mon explication. Elle me convient, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais pour moi, Dieu, il avait dans l'idée, un jour, de se servir de cet arbre. Mais pas tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que l'homme nourrisse d'abord son esprit en mangeant de l'arbre de vie. Nourrir son esprit, faire grandir son esprit, le faire marcher pour que la communion avec lui soit parfaite. Et plus tard, il aurait donné l'autorisation à l'homme de manger la connaissance pour développer son âme. Mais voilà que l'homme a fait l'inverse. L'homme a mangé l'arbre de la connaissance. Et tout à l'heure, je vous ai dit, la connaissance fera les délices de ton âme. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Eh bien, l'homme a développé son âme. Moi, je. Il a développé son intelligence, son âme. Et tout d'un coup, il s'est dit, tiens, je sais diriger ma vie. Et quand vous regardez comment l'homme est devenu difforme, boursouflé d'orgueil, Dieu, dans sa sagesse, a dit, il ne faut surtout pas que l'homme reste éternel dans cet état-là. Imaginez que les hommes, maintenant, que les Hitler et compagnie, et les Pol Pot, etc., soient éternels. Dieu est sage. Et c'est dans sa miséricorde qu'il a dit, il vaut mieux mettre un terme à ça. C'est tellement important de comprendre ça. Vous savez, Dieu, qu'est-ce que c'est la grâce et la miséricorde ? La grâce, c'est que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Et la miséricorde, c'est qu'il ne nous donne pas ce que nous méritons. Alors, voilà l'homme qui est devenu difforme. Et voilà Dieu qui se trouve devant un problème extraordinaire. Parce que il a dit, bon, ben, c'est pas possible, on ne peut pas laisser continuer à vivre une humanité qui devient comme ça. Parce que le malheur entre. Et regardez comment il rentre. Il rentre par la souffrance. La souffrance se met sur l'homme, sur ce que l'homme doit faire, sur son travail, parce qu'il doit nourrir sa famille. Elle se met sur la femme, sur ce qu'elle doit faire, donner la vie. L'essentiel des deux est dans la souffrance. Et Dieu dit non, il ne faut pas que ça dure comme ça. Et l'homme devient mortel. Mais en même temps, il y en a un qui se tord de rire. Il y en a un qui a vu devant tous les anges et devant tous les démons que Dieu a été désobéi. Et que cette désobéissance mérite un jugement. Et alors Satan dit à Dieu, mais alors maintenant, comment tu vas faire ? ta création là, déjà elle est mortelle maintenant. Tiens, c'est bien, tu as créé la vie, regarde, elle est mortelle. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand ils seront morts, tu vas les ressusciter, puis tu vas les juger et les faire mourir une deuxième fois? C'est tordant. Ça veut dire que tout ce que tu viens de créer, tu vas le détruire. C'est ça, hein? Et il se marre. Et Dieu dit, ben, puisque c'est ça, je vais faire quelque chose. Et la première chose qu'il fait, Dieu, c'est d'apprendre aux hommes dans quel état ils sont. Et c'est pour ça que Dieu va donner à un peuple des lois d'une sévérité incroyable, de façon à ce qu'ils apprennent ce que c'est qu'un péché, de façon à ce qu'ils apprennent comment ils sont. Il les met dans des situations où leur âme est révélée et où ils constatent par eux-mêmes qu'ils sont boursouflés, qu'ils sont malades, qu'ils ont l'âme dans un état lamentable, foutu. On ne peut rien en faire. Et Dieu leur apprend à faire des sacrifices. Et avec ces sacrifices, il y a le sang, toujours. Et on amène le sang dans le lieu très saint. Et il dit, c'est par ce sang que tes péchés sont effacés. Comme s'il fallait faire mourir l'âme. L'âme doit mourir, elle est plus bonne. C'est l'âme qui a péché. Et alors, après les années d'apprentissage, on voit Jésus. Mais c'est quoi Jésus? C'est qui? C'est Dieu lui-même qui dit, puisque tous les hommes sont mortels, qui sont tous foutus. Moi, Dieu, je vais descendre sous la forme d'un homme et je vais prendre le jugement sur moi. Alors on voit Jésus qui vient et ce Jésus, il était fait comme nous, un corps, une âme, un esprit. Et il avait l'Esprit Saint en plus. Et Jésus était immortel, sans péché. Son âme était parfaite. Il n'a jamais commis aucun péché. Pourtant, Satan a essayé. Il a essayé de le faire tomber comme il avait essayé avec le premier Adam. Avec le deuxième, il n'a pas réussi. Et le sacrifice du Christ, c'est quelque chose, moi j'essaye tous les jours de le comprendre un petit peu plus, parce que je trouve que c'est tellement beau. Vous savez, d'abord il a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais pour faire ta volonté. Il dit, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, hein, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Donc il est là. Il a essayé d'enseigner pendant 3 ans des gens qui avaient un peu l'esprit bouché. Parce qu'à un moment donné, il dit, mais je vais encore vous supporter combien de temps comme ça? Comprenez pas grand-chose. Vous voyez des miracles. Il disait, oui, oui, t'es le fils de Dieu, mais hey, tu pourrais pas nous mettre à la première place là-haut. Ils avaient des pensées humaines. Il n'avait pas encore reçu l'Esprit. Et alors, quand il arrive à la croix, quand il arrive à la croix, Jésus, on a accusé les Juifs, on a accusé les Romains. Personne n'a tué Jésus. Quand il est mis sur la croix, déjà, dans le jardin de Gethsémané, la sueur coulait de son front et c'était du sang qui sortait, vous vous rappelez? c'était déjà son âme qui allait tomber. C'est son âme. Son âme qui tombe dans la terre. Elle est répartie, comme tu disais tout à l'heure, on jetait sur la terre et on jetait sur le peuple. Ça tombait de son front. C'est dire ce qu'il souffrait. Et puis quand il a été sur la croix, qu'est-ce qu'il dit ? Il pense aux autres, il pense à sa maman. Et puis à un moment donné, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe que l'Esprit Saint se retire. Il y a une déchirure entre les esprits. Parce que Jésus est éternel. Il a toujours son esprit à lui. Il est éternel. Et vous remarquerez, quelqu'un va faire remarquer cette semaine qu'il ne dit pas « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il dit « Mon Dieu ». C'est un juge qui est là. C'est un juge. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est tout seul, Jésus. Il est tout seul. Et il est éternel. Il aurait pu rester sur la croix, vivant jusque maintenant. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Il est éternel. Et tout d'un coup, il décide, c'est lui qui décide. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et disant ces paroles, il expira. C'est lui qui décide. On ne met pas Jésus à mort. C'est lui qui a donné sa vie. On ne peut pas accuser les Juifs. Vous voyez comment ça s'est passé. Et moi, j'aime raconter cette histoire. J'aime comprendre comment ça s'est passé. Et je demande au Seigneur qu'il me fasse comprendre encore plus. Que le Seigneur vous bénisse.